Bonjour et bienvenue à Point de vue, Boris Chassaigne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire de cette édition, un immigrant français, adepte des grands espaces, pose ses valises à Chéticamp, en Nouvelle-Écosse. Il a quand même dû se faire l'oreille.
Quand on me dit que ça prend une blade de jigsaw pour couper une sheet de plywood, c'est un petit peu compliqué à comprendre au tout début.
Le train Hyperloop revient de façon cyclique dans l'actualité. Eh bien là, un consortium international veut en construire un qui va relier Edmonton à Calgary en quelques minutes, un projet qui pourrait être lancé dès 2027.
Ça consiste à avoir des véhicules de la taille d'un wagon de train ou d'un bus qui circulent dans des tubes où on a enlevé la majeure partie de l'air. Et donc pour permettre aux véhicules d'atteindre des vitesses similaires à l'avion avec... Aujourd'hui, notre technologie pour atteindre ces vitesses-là.
Une enseignante de l'Est du Canada se voit attribuer l'une des plus hautes distinctions françaises, l'Ordre des Palmes académiques.
On a voulu à la fois célébrer le profil universitaire, mais aussi l'investissement au sein de la communauté francophone de Nouvelle-Écosse. Il est important d'encourager cette maîtrise du français en reconnaissant celles et ceux qui, sur le terrain au quotidien, y consacrent leur vie. Voilà.
Et on vous parle de nos rencontres radiophoniques des prochaines semaines. Bienvenue à Point de vue. Cette émission est une reprise. Alors, notre chère ville d'Edmonton caresse un projet Hyperloop de train sous vide. Sa première phase pourrait être lancée dès 2027. S'il se réalise, le trajet entre Edmonton et Calgary pourrait ne prendre que quelques minutes en wagon-train ou avec ce train sous vide, au lieu de prendre 3 heures en voiture, imaginez. Mais c'est pas si farfelu, il y a des gens qui investissent dans ce type de projet de façon cyclique. Cette fois, c'est la compagnie Transpod qui est responsable du projet Hyperloop. La compagnie a même obtenu un financement de 688 millions de dollars canadiens de la part des compagnies Broughton Capital Group et China East Resources Import and Export Company. Cette somme doit servir à la construction de la première phase du projet qui doit être lancé donc en 2027. Le train sous vide peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 1000 km/h. Plusieurs grandes villes s'y intéressent et au premier chef, lui n'est pas une ville, mais celui qui a mis ce projet sur les rails de nouveau, l'ingénieur de SpaceX et Tesla, Elon Musk. Le directeur général et cofondateur de la compagnie Transpod, Sébastien Gendron, s'est livré au micro de Vincent Savard en Alberta.
Mais en fait, on voit en fait un changement, d'attitude de certaines institutions financières à vouloir innover ou en tout cas investir sur des projets innovants comme celui porté par Transpod. Et donc Broughton Capital se fournit l'ensemble du financement en provenance d'Angleterre. C'est une firme financière anglaise. Sayeco en fait fournit une garantie financière sur une partie du montant. Donc Sayeco qui est une société d'import-export chinoise et vient fournir un backstop en fait sur les fonds qui sont fournis par Broughton Capital. Et on a structuré le projet également de telle façon où le risque est géré avec plusieurs niveaux d'investissement, etc. Donc ça n'a pas été facile, mais on est très content d'avoir pu sécuriser ce financement avec eux.
Et j'imagine que cet argent sert seulement de couvrir une partie des coûts.
Exactement, cet argent en fait a pour objectif de construire juste la première phase du projet. Qui consiste en fait à la connexion de l'aéroport de Edmonton. On va se servir de ce segment-là pour certifier la technologie. Et une fois que c'est certifié, ensuite, on continue jusqu'à Calgary. Donc en fait, Broughton Capital et Sayeco ne sont pas juste intéressés par cette connexion aéroportuaire, mais vraiment par la totalité du corridor. En fait, ils achètent un petit peu ils achètent leur siège aujourd'hui pour pouvoir financer la totalité du projet. Et en dollars canadiens, on parle d'un projet à 22 milliards.
Ensuite, Monsieur Sébastien Gendron, vous voulez faire les premiers tests du trajet d'essai et entamer la construction de la ligne Calgary-Edmonton pour 2027. Croyez-vous que ce soit un objectif qui est réalisable?
À date, aujourd'hui, des retours qu'on a eus des entreprises de construction et de notre développement, c'est faisable. Maintenant, je veux pas faire de fausses promesses. Hein, on connaît pas tout. On va sûrement avoir des problèmes. Là, sur ce premier segment, notre objectif, c'est de commencer la construction à l'été 2023. On a eu des premiers retours nous disant il va falloir entre 18 et 24 mois pour construire ce premier segment. Donc là, on est sur 2025. Ensuite, 2 ans d'essai, 2025-2027. Une certification potentielle, donc 2027. Et après on peut continuer sur Calgary.
J'imagine que vous avez été en contact avec plusieurs personnes de Calgary ainsi que d'Edmonton.
Écoutez, pour le moment, on a l'ensemble des institutions, que ce soit la ville, que ce soit même Edmonton Global. On travaille aussi avec The Building Trades of Alberta, le ministère des Transports, Alberta Transportation. Il y a aussi, on a commencé à contacter quelques Premières Nations. Et je dois dire que tout le monde est plutôt bienveillant sur ce projet-là. Je suis plutôt agréablement surpris. Les étoiles semblent alignées.
Vous avez un diplôme en ingénierie aérospatiale. Vous avez travaillé avec des compagnies aériennes comme Bombardier. Alors, quels sont les avantages et les désavantages de l'Hyperloop si l'on compare avec l'avion en termes environnementaux?
L'avantage, en fait, énorme, c'est qu'on a un système qui est 100% électrique. Sur l'infrastructure, là, entre Calgary et Edmonton, on va pouvoir construire 300 km de panneaux solaires et générer aussi, voilà, de l'électricité à partir d'énergies renouvelables.
J'ai entendu dire que c'était par contre plus énergivore. Est-ce que c'est vrai?
Non, sur la consommation énergétique, aujourd'hui, on est sur la même consommation qu'un train à grande vitesse.
Est-ce qu'il y a des risques à la santé qui ont été évalués par rapport à ça?
On n'est pas en train de concevoir un canon électromagnétique. Donc, les accélérations et les décélérations de ce système-là sont similaires à celles du métro, quoi, ou du light rail à Edmonton. Mm-hmm. Et donc, on est, voilà, il nous faut plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres pour atteindre la vitesse maximum. Et une fois qu'on est à une vitesse de croisière, c'est un peu la même sensation que quand on est dans un avion. Donc, ce sera la même expérience passager. Après, effectivement, on est dans un environnement à faible pression dans le tube, mais on a aussi cet avantage d'être au sol. Donc, s'il y a un accident, on peut repressuriser le tube en fait en 15 secondes. C'est très très rapide. C'est beaucoup plus rapide que dans un avion. Parce qu'un avion, si vous avez un accident de dépressurisation et que vous êtes à 10 000 mètres d'altitude, le temps de redescendre, souvent, ça se termine malheureusement avec un accident. Nous, de notre côté, voilà, on peut repressuriser beaucoup plus rapidement et permettre aux gens, donc du coup, de respirer dans le tube s'il faut évacuer et ensuite d'évacuer le tube.
Merci beaucoup, Sébastien Gendron, directeur général et cofondateur de Transpod.
Je vous en prie. Merci beaucoup.
Bonjour, ici Judy Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Judy est l'une de nos journalistes dans l'Est du pays. Judy, avec qui on s'entretiendra au cours des prochaines semaines. Elle qui va nous quitter bientôt, malheureusement pour nous, et qui va aussi faire de la peine au réseau des 4 radios avec lesquelles nous travaillons en Atlantique, comme avec Sébastien Beltrand, posté à Moncton, et qui est arrivé, lui, au pays. Lui, il ne nous quitte pas, il vient d'arriver. Il est arrivé au pays il y a quelques mois à peine, en direction de France, avec toute sa famille. Imaginez quelle transition. Lui qui est passé du métier de vidéojournaliste à journaliste radio, il travaille avec nous depuis quelques mois seulement. On fera une pause en sa compagnie. On va aussi passer quelques minutes avec notre collaborateur de longue date, Thomas Etier, qui est avec l'initiative de journalisme local depuis quelques temps et qui passe à autre chose, à une autre étape de sa carrière professionnelle, là-bas, tout en haut du pays. Thomas, qui est dans les territoires du Nord-Ouest et qui y reste pour travailler pour le journal L'Aquilon, mais qui a de nombreux points d'entrée sur l'actualité dans ces territoires. Il va nous parler de ce qu'il vit, fait, voit y entend depuis toutes ces années passées comme francophone en situation minoritaire dans les territoires du Nord-Ouest. Il sera donc pour un court moment notre guide de franco-actualité, culture et tourisme. Thomas, qui a de nombreux intérêts, lui qui a étudié non seulement en journalisme, mais aussi en marketing et en psychosociologie. Et puis, notre très productive journaliste Hélène Lequitte va aussi faire une transition professionnelle. Vous savez que les équipes radio de l'Initiative de journalisme local ont la bougeotte comme dans tous les milieux professionnels ces temps-ci, il semble. On ne leur en veut pas, mais on leur met le grappin dessus avant qu'ils ne s'en aillent. Hélène Lequitte, qui est en Alberta, à Edmonton, elle couvre aussi la région de Rivière-la-Paix. On fera le bilan de l'année qu'elle a passée avec nous et dans cette communauté albertaine. Plus de 10 ans d'expérience en journalisme, c'est ce qu'elle a sous la cravate. Hélène Lequitte a aussi collaboré avec ICI Radio-Canada à Vancouver et le quotidien Le Devoir. Et puis, on fera aussi un petit tour en bord de mer. Bon, on va se gâter et rêver un peu. Avec Pénélope Clermont, qui a choisi de prendre racine dans le minuscule village de Tête-à-la-Baleine sur la basse côte nord au Québec. Comment c'est faire du journalisme dans un village d'à peine 150 habitants? Ce sera l'une des questions qu'on va lui poser. Un rendez-vous avec l'actualité locale, mais aussi avec un certain art de vivre qui va nous permettre de voir comment est-ce que nos journalistes s'intègrent à des communautés aux profils très différents. C'est donc un rendez-vous. Parlant de gens qui ont des fourmis dans les jambes, il y a Stéphane Sogne, qui est né en France, en fait au cœur des Alpes françaises. Il a beaucoup voyagé, il a habité évidemment en France puisqu'il y est né, mais a aussi travaillé en Suisse avant de venir au Canada. Sa migration au Canada semblait tracée d'avance depuis tout jeune. Il répétait à sa mère qu'il aimerait aller vivre à Sydney en Australie. Drôle d'idée, non? Eh bien, il a atterri non loin de la même ville, mais dans une province canadienne. Et puis les années passent, ça fait déjà 12 ans qu'il est à Chéticamp, Nouvelle-Écosse. Il est d'abord passé par Montréal, comme tant d'autres Français, et c'est à Rimouski, au Québec, qu'on lui a parlé de Chéticamp et des Acadiens. Il n'en fallait pas plus pour le séduire. 12 ans après son arrivée à Chéticamp, Stéphane Sogne ne regrette en rien sa décision, n'a jamais regardé derrière. Il adore la cuisine acadienne, la nature, la mer, l'homard et la voile, ça tombe bien. Il travaille actuellement comme agent de développement scolaire communautaire à l'école NDA de Chéticamp. Il est au micro de notre journaliste Daniel Aucoin pour parler de son intégration à la communauté acadienne de Chéticamp et de son arrivée, bien sûr, en Nouvelle-Écosse.
Dans les choses qui m'ont beaucoup surpris ou qui ont été un peu plus dures à s'adapter, il y avait définitivement la langue qui était quelque chose, parce que c'est ça, le français acadien est assez différent du français de France, puis même par région, parce qu'on parle l'acadien, mais l'acadien de la région de Clare ou l'acadien de la région de Chéticamp, la langue était un peu plus difficile. Puis il y a l'anglais qui est omniprésent, c'est-à-dire que tout le monde qui parle français est de toute manière bilingue. Ça fait que ça passe du français à l'anglais instantanément, donc ça, c'est un peu plus dur. Et puis, ici, le monde a vraiment comme le cœur sur la main, a pas la même vision qu'en France. En France, quand je dis « je veux créer une entreprise », la plupart des gens disent « oulala, mais t'es fou, c'est beaucoup de soucis, ça va être très compliqué, etc. » Ici, la première chose que le monde m'a dit, c'est « oh, c'est génial, comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire ?» Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une autre vue. C'est un peu le côté rêve américain, je trouve. Tout est possible et tout le monde veut t'aider à faire quelque chose.
Ouais. On sait que la région de Chéticamp, on est reconnu pour nos gros vents du sud-est. Ça a été quoi ta première expérience de nos fameux suèdes?
Alors, quand je suis arrivé ici, au début, je travaillais un petit peu avec Heather Davis, qui avait fait une entreprise d'éoliennes. On essayait des éoliennes. Et quand j'ai entendu parler des grands vents, ma première réaction, c'était de dire « Ah oui, mais moi, je connais le vent, j'ai fait de la voile, j'ai vu les gros vents forts dans le sud de la France, le Mistral, la Tramontane, etc. » Ça, c'était avant de le voir. Et la première fois que j'ai vu un gros suède à passer 170-180 km/h, là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit « mais la maison bouge, c'est pas normal ». Et elle m'a dit « la maison est debout depuis 100 ans, elle va pas s'en aller nulle part ». Mais c'est vraiment… J'adore le vent et vraiment le phénomène des suèdes me passionne. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, c'est la force de la nature dans toute sa splendeur. Là. C'est vraiment quelque chose d'intéressant.
Est-ce que l'hiver à Chéticamp, c'est différent de l'hiver en France?
Alors moi, je viens d'une région de montagne. Ça fait que j'ai grandi dans le froid et la neige. Ça fait que j'ai pas eu trop de mal à m'adapter au froid et à la neige. Par contre, c'est plus l'isolement. C'est-à-dire que ici, tout est loin. Et dès qu'il y a de la neige ou des tempêtes, c'est loin assez que tout est inaccessible. C'est-à-dire que s'il y a une journée de tempête, on ne se rend pas à Sydney ou on ne se rend pas à Halifax.
Comment tu trouves la cuisine acadienne chez nous?
J'adore il y a des plats que j'adore vraiment. Je suis devenu très acadianisé. Par exemple, je mets de la mélasse sur mon pâté à la viande. Ça, j'ai entendu que c'était plus aux moines qui faisaient ça. Mais non, j'adore la cuisine. J'ai toujours aimé la cuisine et j'adore la gastronomie acadienne. Bien sûr, le homard aussi. On a accès à des produits fantastiques. On a accès à du poisson de première qualité. Ça fait que j'aime beaucoup, je me régale beaucoup ici.
Est-ce que ça a été difficile pour toi de t'adapter aux mots acadiens?
Pas tellement, parce que je suis assez... je pense que ça vient du fait que ma mère était d'origine autrichienne, mon père d'origine italienne. J'ai toujours été assez flexible, j'ai habité en Suisse. Ça fait que j'ai l'habitude d'avoir des mots différents. Mais c'est vrai qu'au début, il y a certaines phrases avec de l'anglais... qui sont un peu hardcore. Là. Quand on me dit ça prend une blade de jigsaw pour couper une sheet de plywood, c'est un petit peu compliqué à comprendre au tout début.
Ça a été quoi le plus difficile à s'adapter?
Ici, on est des francophones, mais vraiment des francophones d'Amérique du Nord, avec une culture beaucoup plus anglo-saxonne et américaine que ce qui se passe au Québec. Donc le Québec est plus français dans le côté État français. Et puis ici, la langue est française, mais la culture est beaucoup plus anglo-saxonne.
Qu'est-ce qui te manque le plus?
La gastronomie, la culture de la gastronomie, c'est-à-dire le côté de vraiment faire la cuisine. Pas seulement faire à manger pour se nourrir vite, vite, mais vraiment le fait d'apprécier les ingrédients qu'on met dedans, le côté passer du temps à table, apprécier la nourriture, manger moins, mais manger vraiment de très bonne qualité ou mieux, etc.
Tu regrettes pas ta décision de venir en Acadie?
Non, pas du tout, non. Il y a beaucoup d'amis qui me demandent si je pense retourner en Europe un jour. Et je crois pas, parce qu'il y a quand même beaucoup plus. C'est sûr qu'il y a des choses qui me manquent, ma famille, mes amis, tout ça. Oui, j'ai trouvé beaucoup plus de choses que j'aime ici. Le côté aussi, le côté liberté, le côté on est au Canada, on a de la place, on a accès, on vit littéralement dans la nature, on voit des orignaux traverser notre jardin. Ça fait que, j'aime vraiment beaucoup trop ça ici pour retourner en Europe. Après, je dis pas qu'un jour, j'irai pas faire la même chose dans un autre pays, peut-être découvrir une autre culture, un autre pays, peut-être dans un endroit plus chaud éventuellement.
Les montagnes du Cap-Breton, comparées aux montagnes en France, c'est quoi?
Ah, ça, c'est intéressant. Alors, moi, j'ai grandi dans une station de ski qui s'appelle Val Thorens, dans les Alpes, qui est le plus grand domaine skiable du monde. Ça fait qu'on a à peu près 3000 km de pistes de ski différents. C'est absolument gigantesque. Ça va d'une vallée à une autre vallée à une autre vallée. Et les montagnes montent jusqu'à 3800 mètres, là où j'ai grandi, et le Mont Blanc, qui est à 4800 mètres d'altitude et à environ une heure de chez moi. Alors qu'ici, la butte aux Échoureaux, à peu près 300 mètres. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même esprit de montagne. Par contre, le climat est le même. Le climat est très, très proche. Et j'aime beaucoup Moi, j'ai toujours aimé la neige et puis les activités d'hiver. Donc ici, je retrouve vraiment ça. Et avec en plus le côté mer, c'est ça. Moi, j'aime la mer et j'aime la montagne. Et ici, j'ai les deux, c'est ça qui est fantastique. Je fais de la voile, j'ai fait de la voile pendant très très longtemps. Je suis moniteur de voile, j'ai été entraîneur d'équipe sportive en voile. J'ai fait des compétitions au niveau pré-olympique en France. Alors quand je suis arrivé ici, en habitant finalement sur la mer, j'étais assez content de pouvoir m'acheter un bateau, donc j'ai acheté un voilier. Et à un moment donné, le voilier était un peu trop petit. Je l'ai acheté avec mon ami Scott au coin. Et on a décidé d'acheter un voilier un peu plus grand. Donc, on a acheté un autre voilier un peu plus grand avec Robert Deveau. Et là, j'ai acheté encore un troisième petit voilier. Donc, maintenant, j'ai beaucoup de voiliers et il faudrait que je me débarrasse de quelques voiliers. Mais ouais, je fais beaucoup de voiles et j'adore ça. On va aux îles de la Madeleine, qui est aussi un petit paradis. Là. C'est absolument fantastique.
Alors, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est très, très intéressant. Et on va te souhaiter comme ça un bon séjour parmi nous. Ça fait quand même plusieurs années que tu es ici.
Oui, ça va faire la 12e année. Là, ouais. Merci beaucoup, Daniel.
Merci.
Cette émission est une reprise. L'enseignante canadienne Sophie Beaulé a eu toute une surprise récemment. Elle a été faite chevalière de l'Ordre des Palmes académiques. Oui, l'Ordre des Palmes académiques est le plus ancien ordre honorifique civil de France et l'un des plus prestigieux. Il vise à reconnaître les membres éminents de la communauté éducative qui contribuent au rayonnement de la langue française et à l'expansion de la culture française dans le monde. Le consul général de France à Moncton, Johan Schitterer, lui a remis son insigne en main propre lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'Université St. Mary's d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. L'enseignante a été faite chevalier de l'Ordre des Palmes, en fait, par décret du premier ministre français lui-même pour reconnaître sa contribution et pour son investissement dans l'éducation en français. Le consul général de France à Moncton a rendu hommage au parcours exemplaire de Sophie Beaulé, un témoignage recueilli par notre journaliste Sébastien Beltran, qui nous fait d'abord entendre les commentaires du consul général de France à Moncton.
Alors, les palmes académiques, c'est vraiment l'une des plus anciennes et plus prestigieuses décorations accordées officiellement par la France dans le monde. Elles ont été créées par décret impérial de 1808, donc c'était une idée de l'empereur Napoléon. Ensuite, elles ont été institutionnalisées en France à partir de 1955. L'Ordre des Palmes académiques a été créé cette année-là et elle vise à distinguer, honorer les mérites des membres actifs de la communauté éducative, les personnalités éminentes qui contribuent à l'expansion de la langue, de la culture académique française, en France historiquement bien entendu au départ, mais aussi maintenant dans le monde. Les palmes académiques sont remises à celles et ceux qui font la promotion de la langue et de la culture française dans les universités, parfois même les écoles, puisque ces palmes académiques qui initialement étaient accordées au corps universitaire, maintenant ont été élargies à l'ensemble de la communauté académique.
L'Ordre des Palmes académiques a pour vocation d'encourager les personnes qui apportent une contribution exceptionnelle à l'enrichissement du patrimoine culturel ou à l'éducation. Le parcours exemplaire de Mme Beaulé illustre parfaitement cet engagement dans la durée au profit de la communauté. Johan Schitterer revient sur cet engagement d'une vie.
Sophie Beaulé a été distinguée aujourd'hui parce que c'est une diplômée de l'université McGill, donc elle a un doctorat en littérature française et depuis l'obtention de son doctorat, elle n'a eu de cesse de promouvoir la langue française sous toutes ses formes dans les différents établissements qu'elle a fréquentés. Ici, en Nouvelle-Écosse, elle est depuis 2000 professeure de français à l'université Saint-Mary's University, si vous permettez l'anglicisme. Et dans le cadre de ses fonctions, bien entendu, elle a contribué à l'enseignement, la promotion de la langue française, de ces cultures, y compris, je l'ai appris en préparant mon discours d'aujourd'hui, dans le domaine de la science-fiction, qui est éminemment intéressant, et là en particulier la science-fiction francophone canadienne. C'est un domaine exceptionnellement intéressant, on a eu l'occasion d'échanger. Alors par ailleurs, elle a, au-delà de ses fonctions d'enseignant, vous allez me dire, il y a beaucoup d'enseignants dans le monde qui s'expriment en langue française, elle a eu aussi des fonctions extrêmement importantes pour la diffusion de la langue et de la culture française. Je dis diffusion plutôt que protection, soyons positifs. Elle a eu des fonctions éminentes au sein de l'Alliance française d'Halifax, qui était une très vieille maison qui a plus de 115 ans maintenant, et dont justement l'objectif est la promotion de la langue et de la culture française. Elle a été vice-présidente d'ailleurs de cette Alliance française. entre 2016 et 2018. Elle a aussi eu, à l'occasion de son passage à l'Alliance française, eh bien, toute une série d'initiatives, notamment d'activités francophones à destination des étudiants. Il est important que les étudiants, notamment anglophones, bien sûr, soient sensibilisés à la langue française et aient envie de l'apprendre pour mieux la diffuser. Et par ailleurs, elle a notamment animé un club de lecture, elle a organisé le Salon du Livre de Dartmouth, que vous connaissez peut-être. Elle a sélectionné pour cela des auteurs invités et organisé une journée, le Français pour l'avenir, qui sont particulièrement, ces événements, appréciés par la communauté francophone locale. Donc pour toutes ces raisons, on a voulu à la fois célébrer le profil universitaire, mais aussi l'investissement au sein de la communauté francophone de Nouvelle-Écosse. Comme vous le disiez, c'est un Français ici qui est minoritaire. La Nouvelle-Écosse, l'Acadie historique, a été fondée ici en 1603-1604. Il y a eu une déperdition de cette langue française, mais elle persiste dans certaines communautés. Et pour la France, l'ambassade, le consulat général que je représente ici dans les quatre provinces atlantiques, est important d'encourager cette maîtrise du français en reconnaissant celles et ceux qui, sur le terrain, au quotidien, y consacrent leur vie. Voilà.
Madame Sophie Bollet porte un noble visage. Ses yeux étudient, guettent, méditent. Et lorsqu'elle sourit, ils s'éclairent. La voix douce module les mots avec distinction à travers une majestueuse bienveillance. Lorsqu'on lui demande comment elle se sent après avoir obtenu les honneurs, voici sa réponse.
Oh mon Dieu, c'est un grand honneur. Je n'aurais jamais pensé recevoir, être nommée chevalier dans l'ordre des palmes académiques, j'avoue. Jamais je n'aurais pensé à ça. Alors c'est vraiment un très grand honneur. C'est ça. Les mots me manquent. C'est un très grand honneur. Je suis très émue.
Émue, Sophie raconte sa passion pour la science-fiction, son engagement auprès de l'Alliance française et évoque son amour de la langue française dans un environnement linguistique minoritaire. Avant de quitter l'entrevue et de répondre aux sollicitations des invités, dont celle de Colton Leblanc, ministre des Affaires acadiennes et de la francophonie, Sophie nous confie vouloir s'impliquer de nouveau dans le milieu associatif dont elle a dû s'éloigner momentanément par manque de temps. Au regard de son expérience, nul doute que la communauté francophone pourra compter sur l'énergie de cette femme discrète mais ô combien efficace pour instruire une génération souvent en quête d'identité.
Eh bien voilà, c'est tout pour nous déjà à Point de vue. On vous invite à consulter notre site web où vous pouvez lire et écouter tous les reportages produits par des dizaines de journalistes postés à travers le Canada. Rendez-vous sur canada-info.ca, canada-info.ca. Vous le savez, on est aussi branché sur Twitter, @CanadaLJI, CanadaLJI. Puis écoutez toutes nos émissions sur vos plateformes balado préférées, mais aussi sur notre site Internet, bien évidemment. Et on remercie nos journalistes Daniel Aucoin, Sébastien Beltran et Vincent Savard, et bien sûr leurs invités. Merci aux artistes qui nous offrent leur musique et à notre coordonnateur national Stéphane Bénard. On vous rappelle que cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Revenez-nous la semaine prochaine. À bientôt.
Sur Twitter @CanadaLJI @CanadaLJI.